Bonsoir, messieurs, dames. Si vous venez de nous capter, sachez que vous suivez les programmes du studio Kalangoulé 18h. Tout de suite, le journal en français. Bienvenue à tous et voici nos titres. Élection présidentielle malienne, premier tour du dimanche dernier. Malgré le déploiement de 30 000 soldats, des perturbations ont été enregistrées dans plusieurs localités où des milliers d'électeurs n'ont pas pu voter. Détail tout de suite dans cette édition. Célébration ce jour 31 juillet de la Journée nationale des personnes handicapées. Nous parlerons de la question du quota octroyé aux personnes en situation d'handicap dont les administrations à cette occasion. Les difficultés de fonctionnement de la ligne verte, communément appelée bureau d'information, réclamation et de lutte contre la corruption, le trafic d'influence en milieu judiciaire, c'est de cela dont il sera question ce soir dans votre partie magazine. Au micro, Diallo Mariama Kenda, ravi d'être en votre compagnie pour la sécurisation des opérations de vote du premier tour de la présidentielle du dimanche dernier. Le premier ministre malien a annoncé que 30 000 soldats maliens ont été déployés sur l'ensemble du territoire national. Pourtant, malgré ce dispositif, des perturbations ont été enregistrées dans plusieurs localités où des milliers d'électeurs n'ont pas pu voter. Plus de détails avec Fatoumata Togola du studio Tamani.
Dans la région de Kidal, en milieu de journée, plusieurs obus sont tombés sur le camp de la MINUSMA à Agalhok sans faire de victimes. Le vote a été annulé à Alafia, une commune de 16 000 habitants à l'est de Tombouctou, après que des hommes armés ont brûlé les urnes la nuit dernière. Dans le cercle de Gourmaraous, dans la région de Tombouctou, il n'y a pas eu de vote dans les communes d'Inajatafan et de Haribomo, des zones contrôlées par des présumés djihadistes où l'administration est absente. Toujours dans le même cercle, le matériel électoral de 17 bureaux de vote ont été braqués par des hommes armés la veille du scrutin. Les agents électoraux sont retournés bredouille au chef-lieu de cercle. Il s'agit notamment des localités de Bengel, Nana, Bankoma, Aladokura, Waikungu et Doyaoussa. Dans le village de Zenzan, à 15 km de Gundam, les urnes de bureau de vote de Daga Anizan et Kalgouya ont été emportées par des individus armés sur moto. Dans plusieurs villages du centre, les attaques et les menaces ont pesé aussi sur le déroulement de cette journée électorale. Pas de vote à Gandamia, à 45 km de Douan, où des hommes armés se sont attaqués aux agents électoraux le jour du scrutin. Dans le cercle de Yuwaru, des incidents ont aussi perturbé les élections. Dans les communes de Ndojiga et ça, plusieurs bureaux de vote ont été fermés à 15h à cause des menaces terroristes. À Depoy aussi, il n'y a pas eu d'élection. Les matériels électoraux du bureau de vote de Sarehab ont été brûlés. Des agents électoraux enlevés puis relâchés après. Selon un communiqué du ministère de l'administration, sur 4632 bureaux, le vote n'a pas eu lieu dans plus de 600 bureaux à cause des attaques à main armée et autres violences. Fatoumata Togola depuis Bamako pour Studio Kalangou.
Le Niger célèbre ce jour 31 juillet la Journée nationale des personnes handicapées. À cette occasion, notre reporter a joint au téléphone le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées sur la question du quota octroyé aux personnes en situation d'handicap. Selon Sido Nuhu Umaru, cette loi instituée par l'ordonnance 93/012 du 2 mars 1993 n'est pas encore effective à la fonction publique comme au privé.
Par rapport à l'État, nous avons eu dans le temps quelques difficultés, mais depuis presque 6 mois, on a eu une réunion intéressante avec la ministre de la fonction publique qui nous a mis en contact avec les cadres de la fonction publique. Et depuis lors, nous avons vraiment pu planifier ces difficultés et maintenant, on a beaucoup moins de difficultés par rapport à la fonction publique. Par rapport au secteur privé, nous avons eu une table ronde avec les opérateurs économiques par rapport à cette question. Oui, il y a eu la promesse, mais jusqu'à présent, il y a très peu de retour par rapport au recrutement des personnes handicapées au secteur privé. Il y a des entreprises qui ont recruté, mais une faible proportion par rapport en tout cas aux engagements qui sont pris. Si nous voulons lutter contre la mendicité, il n'y a pas de solution que de favoriser l'emploi et le travail des personnes handicapées. En plus du recrutement à la fonction publique, nous voudrons que l'État facilite l'achat des produits fabriqués par les personnes handicapées. Par rapport au secteur privé, les engagements ont été pris. Nous appelons pour le respect de ces engagements-là.
Propos recueillis par Moussa Hassan. Du 2 au 8 juillet dernier, s'est tenu à Diffa le procès des éléments présumés de Boko Haram. À la fin, plusieurs d'entre eux ont été libérés et ont réintégré leur famille. Notre correspondant de Diffa a rencontré un présumé membre de Boko Haram libéré par la justice. Il nous dit comment il vit sa réintégration dans la société. Ligari Boukar au micro de Lawan Boukar.
Vraiment, nous n'avons aucun problème avec la société. Lorsqu'on nous a accusés, beaucoup se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui lie un tel à cette affaire jusqu'à être arrêté. L'État a fait des investigations. Il ressort que nous sommes innocents. Nous sommes revenus parmi nos parents. Nous menons notre vie avec eux, comme d'habitude, sans problème. Nous souhaitons à ce que la paix règne dans notre pays, le Niger, particulièrement dans notre région de Diffa, pour que tout revienne à la normale comme avant, afin qu'on puisse circuler librement d'ici jusqu'à Maiduguri, jusqu'au lac Tchad, sans aucun problème. C'est notre souhait de tous les temps.
Après leur libération, les présumés membres de Boko Haram sont confrontés à un problème de réinsertion, d'où l'existence d'un comité chargé de sensibiliser la population afin de les accepter. Abba Gaba Tela, membre de ce comité au micro de Lawan Boukar.
Certaines personnes comprennent, d'autres ne comprennent pas. Ceux qu'on a amenés à Niamey ne sont pas tous des membres de la secte Boko Haram. Il y a ceux qui ont été pris lorsqu'ils portaient un sac d'engrais. La majorité de ceux qu'on a libérés, ce sont eux. Ce sont nos parents, ce sont nos enfants. Que les gens se calment. Si on libère une personne, c'est parce que son dossier est vide. Si même on libère un élément de Boko Haram par erreur, c'est dû au manque de preuves. Parce qu'on a invité d'autres personnes au procès. Normalement, le gouvernement devrait sensibiliser la population sur l'insertion des présumés membres de Boko Haram avant leur libération. Nous avons organisé une formation de 5 jours à Mené-sur-Roi. Toutes les communes ont demandé de sortir pour sensibiliser les gens. Les détenus là ne sont pas tous coupables. Il y a des innocents parmi eux. Les coupables ont été ramenés à Niamey après le procès.
20 journalistes de Niamey, Tilaberi et Tawa seront formés aujourd'hui et demain à Niamey sur les plaidoyers, l'analyse et le suivi de l'eau, objectif du développement durable 2030 numéro 6. C'est une formation organisée par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA avec l'appui de WaterAid. Ousmane Dambaji, président du REGEA, explique l'importance de la formation au micro de Habibou Garba.
Il n'y a pas mieux que les journalistes pour suivre, pour s'assurer est-ce que ce que l'État a pris comme engagement, il est en train de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas de disparité entre les régions. Est-ce qu'il n'y a pas des inégalités extrêmes entre les régions? Il se peut que de la mise en œuvre d'un programme, il est prévu de faire équitablement la répartition des ressources. Il se peut que Tawa a été lésé, il se peut que Tilaberi est lésé ou Niamey est lésé dans la programmation. Mais notre rôle, c'est pour dire, écoutez, voilà ce qu'il faut faire, on n'est pas d'accord avec cette disparité, il faut la corriger. Et là où l'État aussi a fait des efforts remarquables, on le dit. Je prends le cas de l'eau par exemple, c'est que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, en ville, nous consommons l'eau beaucoup plus moins cher que ceux qui sont au village. C'est pas normal. Nous sommes en ville, il faut consommer 5 tonneaux d'eau pour payer 127 francs CFA. S'il vous plaît, il faut que nous consommions un mètre cube qui fait 5 tonneaux d'eau pour payer 127 francs. Au village, pour avoir 5 tonneaux, mais vous payez à peu près 10 000. Imaginez les inégalités qui doivent être corrigées. Et c'est nous-mêmes qui sommes en ville qui devraient dire, écoutez l'État, vraiment il faut qu'on répare. Donc c'est ce travail-là. Comme la presse fait du service public, la presse est un acteur incontournable.
Les travaux de voirie dans le cadre de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre qui sera célébrée cette année à Zinder se poursuivent. Le taux d'exécution de ces travaux tourne autour de 30%. La SOGEA s'attend en charge de la réalisation des routes et la réhabilitation de l'aéroport de Zinder rencontre quelques difficultés, comme le précise ici Falunjai, directeur des travaux de l'entreprise au micro de notre correspondant Ali Keita.
Les installations des différentes bases, on est à 100%. La carrière de production du gravier qu'on utilise pour faire le chantier est opérationnelle. On a commencé la production, ça fait une semaine. En ce qui concerne le chantier, actuellement on doit être à 30% d'avancement des travaux. On est dans la ville de Zinder, c'est trop dense, il y a la circulation, c'est tellement difficile de travailler avec le trafic. Il y a pas mal de difficultés, j'espère que la population aussi nous accompagne dans ce sens. Ils vont comprendre et puis ils vont emprunter les déviations qui ont été tracées. Sur la voie qu'on appelle RDV1, en prolongeant la tribune, un peu devant, vous voyez beaucoup de roches. On a fait beaucoup de tentatives, jusqu'à maintenant, ça reste encore. C'est la difficulté majeure de ce chantier. On a prévu de dynamiter les roches, donc on va faire de telle sorte que ça va pas exploser, donc il y a une séance de sensibilisation.
Trois femmes sont mortes noyées après avoir été emportées par les eaux d'une rivière à Angoual-Jibirine dans le département de Miria, région des Indes, samedi dernier. Deux autres femmes rescapées ont été repêchées par les sapeurs-pompiers Muntaka, le chef de village de Angoual-Jibirine, département de Miria, explique au micro de Amadou Roufaï.
Il va falloir demander les autres avec lesquelles elles sont venues pour déterminer leur nombre. Si elles disent qu'il n'y a pas d'autres disparus, là nous sommes rassurés. C'est pour la première fois que cette rivière a causé la mort des personnes. Ce sont les eaux des pluies. C'est bloqué quelque part, mais comme il a plu abondamment, les eaux ont débordé. Ces femmes ne connaissent pas l'endroit et elles sont rentrées dedans sans demander. Les mesures que nous allons prendre, c'est de demander à ceux qui sont à côté de la rivière de faire attention aux gens qui ne connaissent pas le lieu. Les empêcher de traverser eux seuls, sauf avec d'autres personnes qui peuvent les assister.
Un mot de culture, la 18e édition du festival Conco Clap Ivoire, concours initié par l'État ivoirien à l'intention des pays de l'UEMOA, se tiendra du 4 au 9 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Selon le directeur des études et des projets du Centre national de la cinématographie du Niger, sur 5 films, 2 ont été retenus à l'issue de la sélection finale qui a eu lieu hier au 10 centre. Meyaki Tahirou déplore le manque d'engouement des jeunes intéressés par le cinéma et l'audiovisuel par rapport aux éditions précédentes. Meyaki Tahirou, le directeur des études des projets du Centre national de la cinématographie du Niger.
La particularité cette année, c'est que les deux sont des lauréates. On a une fiction de Rahmat Oudoula que beaucoup de téléspectateurs connaissent, qui s'appelle Weborunya, et puis le documentaire est de Linda Diatta, qui s'est lancée dans la production cinématographique aussi, et Le Dernier Combat. Déjà, le règlement du concours Clap Ivoire dit que c'est une durée impérative de 13 minutes. C'est des films de court-métrage. Je peux dire sincèrement, on a déploré l'absence de beaucoup de candidatures. À cette édition, on n'a reçu que 5 films, dont une seule fiction et 4 documentaires. Alors qu'avant, c'était vraiment la fiction qui damait les concours.
La partie magazine de cette édition à présent, les difficultés de fonctionnement de la ligne verte communément appelé Bureau d'information réclamation de lutte contre la corruption, le trafic d'influence en milieu judiciaire.
Les citoyens se plaignent régulièrement, et à tort ou à raison, de certains obstacles par rapport à leur dossier pendant sur les juridictions. Alors cet organe a été mis en place dans le but de permettre aux citoyens de la saisir afin de porter plainte, d'informer ou de réclamer par rapport à ce qu'ils pensent être injuste à leur égard. Cette ligne qui a le numéro 08-11-11, vous pouvez appeler, c'est donc un appel gratuit. Les gens appellent souvent pour dire, pour dénoncer, et des fois aussi les gens ils écrivent un courrier qu'ils envoient via la poste ou qu'ils se déplacent eux-mêmes pour déposer donc leur plainte. Et à chaque fois, il y a des sessions qui se tiennent pour non seulement analyser les plaintes pour voir leur caractère sérieux ou non, et plus tard un comité d'investigation est mis en place qui, en cas de besoin, se déplace sur le lieu où l'acte aurait été posé pour chercher toutes les informations nécessaires et de soumettre à qui de droit pour la suite à donner.
Est-ce que la population la connaît et sinon, que faites-vous pour la vulgariser?
C'est vraiment connu, notamment les gens à l'intérieur du pays, compte tenu de certaines difficultés lié au traitement assez lent des dossiers, ça a un peu baissé, mais aussi du fait que, bon, auparavant, il y avait une bande d'annonces qui passait dans le journal Le Sahel ou d'autres journaux pour rappeler le numéro. Mais je rappelle que, en tout cas, nous avons enregistré pas moins de 11 000 appels. Mais dans ces appels, il faut vérifier qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui peut être des canulars. Souvent, les gens font l'amalgame entre la ligne verte et les autres institutions de lutte contre la corruption. La ligne verte se préoccupe principalement des actes posés en milieu judiciaire. Comment est-elle composée? C'est composée de toutes les structures entrant en matière judiciaire, que ce soit les syndicats des magistrats, la chambre des notaires, les huissiers, le barreau, le ministère de la justice, mais également la société civile active dans la lutte contre la corruption. Ce sont toutes ces structures qui ont leurs délégués, qui font partie donc des comités d'investigation afin de permettre la plus grande transparence et l'équité dans le traitement donc, de ces dossiers.
Parmi ces 11 000 cas de plaintes enregistrées, combien ont pu être traités et élucidés?
Je n'ai pas les statistiques en tête, mais je sais qu'une grande majorité des cas ont connu des missions sur le terrain, ont été traités et d'autres sont renvoyés pour des sanctions disciplinaires ou administratives.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.